Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Bonjour à tous. Au programme, vous saurez, grâce à notre coach en séduction, comment séduire une femme qui est plus âgée que vous. On reviendra également sur les problèmes d'érection et puis certaines de vos expériences libertines. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver notre sexo-canadien préféré, Yvon Dallaire, qui répondait à une question que vous vous êtes peut-être déjà posée.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaye.
Est-ce qu'on peut rester coincé l'un dans l'autre lors d'un coït et qu'est-ce qu'on fait si ça se produit?
Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui c'est arrivé. Et moi, je demande toujours, j'aimerais ça aux gens à qui c'est arrivé qu'ils viennent me voir.
Ouais,
et j'en ai jamais eu. Et ça fait plus de 35 ans que je suis dans ce domaine-là.
Voilà. Alors, ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de particulièrement exceptionnel. Hein. C'est une sorte de vaginisme une fois qu'il y a eu pénétration, en fait.
Oui,
hein.
Mais à ce moment-là, monsieur va perdre son érection et il risque facilement, s'il y a eu pénétration, qu'il va y avoir...
Il paraît que, d'après ce que disent certains qui ont travaillé aux urgences, ça peut arriver, voilà. Mais bon, si ça arrivait, parce qu'après tout, la probabilité existe...
Alors, j'aimerais entendre un auditeur.
Oui, si ça vous est arrivé, hein, et pas si quelqu'un que vous connaissez qui a connu quelqu'un qui, comme vient de le dire Yvon, hein. Non, mais tout simplement, il faut appeler les urgences, quoi, c'est tout.
Oui.
Voilà. Mais alors, il faut aller dans la salle de bain, prendre une bonne douche. Mais en fait, ce serait, je vais utiliser le conditionnel hein, pour aller dans votre sens, Yvon Dallaire, ce serait en fait une contraction involontaire de toute la zone des muscles pubiens.
Du muscle plus beau coccygien de madame.
Exactement.
Mais généralement, qui empêche plutôt la pénétration.
Absolument.
Qui est plutôt bloqué.
Mais il peut y avoir, imaginons, vous êtes en train de faire l'amour et puis tout d'un coup, il y a quelque chose de terrible, horrible qui se passe. Madame a très très peur, elle se bloque.
À ce moment-là, elle va plutôt éjecter le pénis.
C'est vrai, vous avez raison. Première expérience libertine, c'est Virginie qui a 25 ans, qui a envie de nous en parler. Bonjour Virginie.
Bonjour à tous. Alors, je voulais vous partager mon expérience et notamment rebondir sur les autres témoignages. Donc, ça fait 5 ans que je suis avec mon conjoint. Et c'est vrai qu'on a connu des baisses de libido par période. Et il y a quelques temps, il a voulu, il m'a proposé d'expérimenter le libertinage. Donc, je vais pas vous cacher qu'au début, j'étais un peu contre, parce que c'est un monde quand même à part. C'était nouveau pour moi et pour lui aussi. Donc, nous sommes rendus, on habite dans la région lyonnaise, donc au sein de Lyon. Donc, c'est vraiment un cadre à part. Et nous sommes rendus dans cet endroit. C'était une soirée mousse 100% couple. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais pas très à l'aise. Et en fait, j'ai complètement changé d'avis là-dessus. Je me suis dit que, on va tenter une nouvelle expérience. Et donc, au début, on ne s'est pas lancé tout de suite dedans. C'était plus du voyeurisme avec les coins câlins qu'on faisait tous les deux. Mais j'étais étonnée que ce soit un monde très ouvert, des gens très respectueux. Et donc, on a réitéré l'expérience plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a pimenté notre couple et qui nous a ressoudés. J'aurais jamais pensé qu'une expérience pareille pouvait ressouder un couple. Et voilà, c'était vraiment pour témoigner de cette expérience et que, faut arrêter d'avoir des tabous là-dessus. Et que pour certaines personnes, ça peut même sauver un couple. Donc, tout ce que j'entendais, les témoignages tout à l'heure, c'est vrai que, il faut pas éviter toutes les solutions et le libertinage, c'est quelque chose.
Mais encore une fois, vous venez de le dire, pour certaines personnes, ce qui ne veut pas dire que ça conviendrait à tout le monde. En tout cas, dans votre cas, vous y avez été progressivement. Et ça, c'est une très bonne chose. Et puis, en effet, le libertinage, c'est du jeu. C'est quelque chose qui permet de mettre de la fantaisie tout en s'amusant, en étant complice. Donc ça peut en effet ressouder un couple. Mais encore une fois, c'est pas la solution miracle.
C'est ce que j'appelle un jeu dangereux. Oui. Et moi, en tant que clinicien, ce que je reçois dans mon bureau, c'est plutôt les couples qui ont tenté l'échangisme ou le libertinage et qui se sont plutôt mal, ça s'est mal passé. Un des deux peut devenir amoureux de l'autre. L'homme a quand même certaines limites à son potentiel sexuel, ce qui n'est pas le cas pour la femme. Donc, la femme, parfois, peut en profiter plus que monsieur. Et ça crée, j'ai eu beaucoup de couples qui ont, suite à des échange comme ça, ça a remis, ça peut raviver leur passion ou ça peut l'avoir fait temporairement, mais beaucoup de cas cliniques, oui, ce qui m'amène moi en tant que clinicien,
bien sûr,
à dire,
bien sûr.
Très 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 attention.
C'est pour ça que moi je conseille toujours d'aller voir dans un premier temps et de décider de ne rien faire la première fois pour justement pouvoir déjà ressentir ce qui se passe, parce que sinon...
Et en général, les gens qui sont là sont des gens qui sont effectivement, comme elle le dit, très respectueux.
Bien sûr.
Et même parfois, conservateurs.
Oui, c'est
Il faut que ça se fasse selon des règles très précises.
C'est ça. Si du moment que vous respectez ces certaines règles, c'est vrai que ça peut tout de suite être bénéfique pour le couple. Je dis pas que c'est une solution magique, mais c'est quelque chose à expérimenter, surtout quand le couple bat de l'aile. Et enfin nous personnellement, ça nous a beaucoup aidé et on a rencontré justement d'autres couples avec qui on a partagé cette expérience et qui étaient dans le même cas que nous. Après, c'est vrai que vous avez ce genre de clubs qui sont faits pour des personnes qui s'échangent, mais c'est pas forcément des personnes que vous allez être amenées à revoir tous les week-ends.
Oui, et encore une fois, je conseille toujours, quand on n'est pas sûr que ça soit vraiment pour nous, de plutôt aller dans un club que de faire venir des gens chez soi. Voilà, parce que là, au moins, on a la possibilité d'y aller et puis de repartir rapidement si on se sent mal à l'aise. De toute façon, Virginie, vous étiez pas trop sûre de vous au départ, mais vous êtes pas forcée. Et je crois que c'est encore... Vous êtes respectée. C'est ça qui compte aussi dans cette histoire. Il faut surtout se respecter. Moi, je conseille souvent, d'ailleurs, qui est un mot joker qui puisse être prononcé par l'un ou par l'autre si jamais il y a le moindre malaise, pour pas aller plus loin que ce qu'on peut supporter, voilà.
Oui, dans le respect mutuel aussi.
Et absolument. Ben, merci de votre témoignage, en tout cas.
Merci
Virginie.
À vous.
Ce qui est en jeu ici, c'est que les vibrations sexuelles peuvent provoquer des vibrations au niveau du cœur et au niveau de l'esprit, parce qu'on n'est pas des êtres compartimentés, on est des êtres qui fonctionnent de façon globale.
Bien sûr, et je crois que ce qu'on oublie souvent, c'est que ce qui concerne la sexualité, c'est quand même très souterrain, et donc ce qu'on croit penser, ce qu'on croit comment on va réagir, on a tous l'impression qu'on va réagir de telle ou telle manière, mais comme la sexualité, ça touche des zones d'ombre et des zones très souterraines, on peut être tout à fait surpris de devenir extrêmement jaloux d'un seul coup, extrêmement excité ou de ne plus savoir se contrôler et de se jeter sur d'autres corps malgré les promesses qu'on avait faites à son partenaire. Voilà quelques exemples que vous entendez, j'imagine, régulièrement.
Oui, souvent c'est, bon, madame était réticente, monsieur a réussi à la convaincre, elle a commencé à y prendre plaisir et finalement, elle y a pris plus de plaisir que monsieur. Et finalement, c'est monsieur qui veut maintenant... ne plus y retourner.
Et elle, on a ouvert la boîte de Pandore et elle court tous les samedis soirs.
Le potentiel sexuel des femmes étant illimité.
Oui, mais vous voyez, je crois, Yvon Allaire, on revient sur le terme de la communication. Au fond, très souvent, quand j'entends des couples qui témoignent avec l'envie d'aller en libertinage, j'essaye de les aider à exprimer pourquoi ils ont envie d'y aller. Et finalement, c'est jamais très clair. C'est-à-dire qu'ils ont envie, ils en attendent des choses, mais ils savent pas quoi. Et c'est là où forcément on peut être très agréablement surpris ou terriblement déçu, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'on y attend et ce qu'on va y trouver au fond.
Oui. Et il faut quand même rester très transparent par rapport à ces expériences-là, si on veut améliorer notre couple.
Évidemment.
Parce qu'il y a quand même des couples heureux qui l'ont tenté et qui...
Et avec qui ça marche, la preuve.
Mais ils ont arrêté.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
On continue avec Rémi qui est avec nous. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Alors la communication, ça semblerait être une des premières causes de votre divorce, Rémi.
Effectivement, la communication, c'est pas forcément se parler, c'est d'abord aussi s'écouter, se comprendre et surtout s'accepter. Maintenant, j'ai eu des problèmes moi avec ma femme, qui est maintenant mon ex-femme. où bien, elle a pas su non plus forcément toujours me parler comme il fallait. Et elle a surtout pensé pour moi, pensé que j'avais besoin de ceci ou besoin de cela, sans jamais vraiment me parler de ses sentiments et de ce qu'elle ressentait. Et voilà. Donc moi, je me suis fait des films, je me suis imaginé des choses, j'ai essayé de lui parler. À chaque fois, ben ça n'allait pas, ça allait au clash. On est allé voir une psychologue qui m'a fortement conseillé d'attendre et d'attendre et d'attendre. Donc effectivement, je suis d'accord, il faut savoir écouter, il faut savoir attendre. Mais à un moment donné, nous les hommes, on a besoin de signes, même tout bête. Un mot, un regard, voilà, quel qu'il soit. Donc ça m'a un peu détruit et du coup, de par cette...
Et quand vous dites on a besoin de signes, c'est-à-dire vous n'aviez plus du tout d'intimité ?
Ah si, si, on avait une intimité, on avait une vie sexuelle très très épanouie, il n'y avait aucun problème là-dessus, mais c'était qu'une façade, il n'y avait rien de profond. C'était tout, voilà, c'était un décor de cinéma en fait. C'était joli devant, et puis ben derrière on se parlait peu, on passait du temps devant la télé, donc voilà. Donc
ça, il n'y avait pas de réelle intimité.
Ben oui, c'est ce que je pense. Voilà. Il y avait une intimité corporelle, certes, mais l'intimité psychique, elle n'était pas là. Hein.
C'est ce que j'entends. Vous soulignez pour moi la troisième dimension des problèmes reliés à la communication. Les gens parlent de problèmes de communication alors que pour moi, il n'y a pas de problème de communication. Il y a un problème de consensus, on n'est pas d'accord, ou on est d'accord. Il y a un problème de contenu, c'est sûr que si on parle davantage de ce qui ne va pas, excusez l'expression, mais si on brasse plus de merde que de fleurs, on risque de s'emmerder. Là. Et le troisième problème, c'est qu'évidemment, c'est un problème d'interprétation des mots et de l'intention de la personne qui est en face de nous. Si on n'écoute pas vraiment la personne, on est porté à interpréter. Quand un homme, par exemple, dit à une femme, je t'aime, c'est un exemple très simple, je t'aime, et que madame dit, oui, moi aussi, je t'aime, peut-être que monsieur a compris qu'elle était prête à faire l'amour, alors que madame, lui, disait qu'elle avait de la reconnaissance et de l'affection pour lui. Donc, le sens des mots, c'est le troisième problème relié. L'interprétation qu'on fait des mots, c'est le troisième problème relié à la communication.
Mais dans ce que vous dites, Rémi, moi, j'ai l'impression que votre ex, puisque bon, vous êtes en instance de divorce, au fond, elle n'est pas très à l'aise avec elle-même, ou en tout cas, elle a des comptes à rendre encore avec la gente masculine. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est presque elle qui doit régler encore pas mal de problèmes. Et au lieu de se servir du couple pour les régler, elle évacue le couple, non ?
C'est ça. C'est exactement. Vous avez mis le doigt dessus, pile poil. C'est exactement ça. En fait, le problème est qu'elle a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, ce qu'elle ressent. Donc, eh bien, ça, à un moment donné, quand on demande, quand on est en demande d'attention, on l'a pas forcément. Enfin, des attentions, je parle pas forcément de dire qu'on s'aime, mais ne serait-ce que des petites attentions de temps en temps. J'ai rencontré une personne et je me suis promis à moi-même de discuter avant et de créer les bases d'une sphère, d'un couple qu'on va mettre en place. Bien avant de commencer à faire l'amour, à jouer et tout ça, parce que c'est ce qui est plus important. Et aujourd'hui, en quelques mois, j'ai eu beaucoup plus de discussions avec cette nouvelle personne que j'ai eu en 10 ans avec mon ex-femme. Et je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein aujourd'hui dans ma vie que je l'ai été ces quelques dernières années.
Mais ça prouve que vous avez énormément besoin, vous, comme je dirais presque comme une femme, de communiquer en profondeur. Et alors la question qu'il faut toujours vous poser, c'est pourquoi vous avez choisi cette première femme qui, de toute façon, ne pouvait pas vous rendre heureux. C'est aussi le travail sur soi qui permet de faire avancer. On le disait, Yvan Dallaire, un couple,
c'est basé sur des erreurs dont on prend conscience.
Et oui.
C'est ça, c'est la jeunesse.
Et oui, c'est l'impulsion, c'est le désir.
Je ne regrette pas. Je ne regrette rien du tout de ce que j'ai vécu.
Non, mais surtout pas. Ça vous a appris des choses.
Voilà, ça m'a forgé. Et aujourd'hui, je sais que j'ai envie d'une autre relation qui soit plus spirituelle que charnelle. Et personnellement, j'en tire beaucoup plus de choses. Et c'est beaucoup plus agréable, ce genre de relation. Pour vous donner un exemple, ma nouvelle compagne est partie quelques semaines loin. Ça m'a pas forcément dérangé plus que ça, parce que je sais que on était quand même là. Il y avait des moyens de communication, le téléphone, Skype, Internet et tout ça. même du courrier, on s'envoyait du courrier, c'était agréable. Et ça, c'est nettement plus agréable que d'avoir des relations.
Ce que j'entends, c'est que vous faites ce que j'appelle maintenant une période de probation avant de vous engager. Antérieurement, on appelait ça des fréquentations.
Eh oui, eh oui. Ben, attention, Rémi, de ne pas passer d'un extrême à un autre, c'est tout. La tempérance, c'est pas mal non plus. Hein.
Ah non, mais j'ai pas de problème. Mais j'essaye surtout d'abord, pour moi, de poser des bases, parce que je pars toujours au quart de tour, et donc du coup, j'ai besoin d'être tempéré un tout petit peu. Et ça me va, c'est parfait.
Vous êtes un grand sensible.
Et plus vous allez savoir, sûrement. Et plus vous allez savoir qu'est-ce que vous voulez, plus vous augmentez les probabilités de l'obtenir.
Voilà.
Ça, je crois que vous serez d'accord avec moi, Yvon Dallaire, c'est pas mal quand même, de temps en temps, de signaler à son partenaire quels sont nos besoins.
Oui. Et généralement, les gens savent davantage qu'est-ce qu'ils ne veulent plus.
On en arrive toujours au positif et au négatif.
Alors, il y a tout un travail que je fais en thérapie avec mes clients. Il y a tout un travail de qu'est-ce que je veux? C'est quoi qui est négociable et pas négociable dans ma prochaine relation amoureuse?
Bastien est avec nous, il a 35 ans, c'est un couple heureux, il a envie de le crier. Bonjour Bastien.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour votre invité.
Bonjour.
Voilà, moi je voulais le crier, oui, c'est que je suis un couple heureux. Donc j'ai 35 ans, mais je pense que pour être un couple heureux, il faut passer aussi par des étapes où on est moins heureux. Mm-hmm. On se rend compte, comme disait Yvan, de ce qu'on ne veut pas. Et de ce qu'on veut vraiment après. Voilà, moi j'ai eu plusieurs relations où il y avait des manques de communication, où il y avait de la communication mais pas de la compréhension, et ça m'a appris à savoir exactement ce que moi je voulais. Et ensuite ce que je ne voulais pas.
Alors moi je préciserais, Bastien, je crois que l'expérience, elle nous apprend surtout à savoir ce qu'on veut plus. Ce qu'on veut, c'est beaucoup plus compliqué, me semble-t-il.
Mmh. Oui, oui,
c'est vrai.
Après ma première relation, qui avait duré 4 ans quand même, je savais exactement ce que je voulais plus.
Oui,
je me suis plongé dans une autre relation où j'avais plus des interdits comme j'avais dans la première, et en fait c'est pas ça du tout le bonheur après. Enfin voilà, et c'est quand je me suis rendu compte vraiment ce que je voulais que qu'on s'est séparés en fait, et puis par hasard j'ai rencontré l'amour aujourd'hui. Et la communication se fait, et tout se fait, voilà, et c'est simple, en fait, le bonheur, c'est simple.
Exact. Voilà. Je suis d'accord avec vous, Bastien.
Bon, Bastien, moi, je vous conseille de vous plonger dans le livre d'Yvon Dallaire, pardon, qui sont ces couples heureux, parce que vous allez pouvoir, comme ça, mettre en pratique, et ça durera très longtemps.
Et comme vous dites, les couples.
Ça va durer.
Et Bastien, comme vous le dites, les couples heureux ne sont pas heureux tout le temps. Ils passent aussi, c'est ce que vous avez dit, par des moments plus difficiles. Et ils ont exactement les mêmes sources de conflits pour la plupart. Pas insolubles, sauf qu'ils vont les gérer et vont passer à travers d'une façon différente. Ce qui fait que le couple heureux, c'est un processus et c'est la finale. C'est en finale qu'on est heureux.
Ce qu'il faut pas laisser, c'est des rancœurs s'installer, un esprit de vengeance. Bon, ouais. C'est vrai que forcément l'autre va nous faire mal, va nous blesser, va nous rendre triste.
Il faut apprendre à s'excuser et à pardonner.
Voilà, je crois que c'est vraiment important, parce qu'à ce moment-là, on peut continuer ensemble dans la joie et dans le plaisir. Sinon, forcément, à un moment donné, ça mettra le couple en danger si on n'arrive pas à passer outre tous les écueils qu'on rencontre. Ce qui est normal, puisqu'on s'aime, on va forcer. Comme je dis souvent, il n'y a que les gens qu'on aime qui peuvent nous faire du mal.
Oui. Et chaque écueil surmonté, chaque crise résolue, nous renforce pour la prochaine.
Et ben voilà, c'est une belle conclusion.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Et c'est le moment de retrouver notre coach en séduction, Noah Rose. Je vous propose aujourd'hui de répondre à ce mail de Alain, il a 26 ans. Je crois que je suis en train de tomber amoureux d'une femme qui a 15 ans de plus que moi. À cause de notre différence d'âge, je n'ose pas aller l'aborder. J'ai peur qu'elle se moque de moi, qu'elle ne me prenne pas au sérieux. Mais dès que je la crois, je deviens tout rouge. Elle travaille avec moi, en fait, c'est une de mes collègues. Voilà.
Ah oui, comment réussir à la séduire?
Est-ce qu'on drague les femmes différemment suivant leur âge?
Justement, je pense pas. Et c'est une pression qu'il se met un peu tout seul, puisque oui, il voit qu'elle a 15 ans de plus, il suppose qu'elle a plus d'expérience, qu'il va peut-être passer pour un petit merdeux, hein, finalement, par rapport à elle. Mais c'est en ayant cette réaction-là que, je sais pas, est-ce qu'elle a besoin de materner quelqu'un? Pas forcément. Hein. Il y a des femmes qui ont peut-être ce besoin-là. Il y a des femmes qui cherchent un homme à materner, qui sont, mais pas forcément. Et elle a peut-être besoin d'un vrai homme, et c'est ce qu'il faut qu'il soit pour elle, je pense. Alors, il se met un petit peu de pression. Je pense qu'il faut qu'il.
En fait, vous êtes en train de nous dire que de toute façon, il faut pas tenir compte des différences quelles qu'elles soient, que ce soit l'âge, que ce soit la couleur de la peau, que ce soit, enfin bon, voilà, il est tombé amoureux de cette femme. Il faut qu'il.
Il devrait réussir à la séduire comme n'importe qui. Il faut qu'il sorte de la tête que parce qu'elle est un petit peu plus âgée, elle a une espèce de valeur supérieure à lui. C'est une question de valeur, la séduction. On accepte d'être séduit que par des gens dont on estime qu'ils ont une certaine valeur, je dirais. Hein. S'il y a quelqu'un que vous estimez en dessous de vous, quels que soient vos critères, etc., finalement, ils n'ont que peu d'intérêt à vos yeux. Si vous pensez que c'est quelqu'un que vous admirez, que vous avez envie d'être dans sa présence...
En fait,
vous êtes...
il se sent petit garçon.
Il se sent petit garçon,
femme.
Et tant qu'il pensera comme ça, ça sera très difficile. Donc là, c'est plus un travail, ce qu'on appelle de l'inner game en séduction, c'est plus un travail sur soi, finalement, travail intérieur, qu'un véritable travail technique de séduction, parce que c'est pas vraiment ça qui nous pose comme question, c'est il se sent petit par rapport à elle. Il rougit, il devient timide. Il faut qu'il arrive à voir les qualités qu'il peut avoir par rapport à une femme un petit peu plus âgée. Peut-être que justement, c'est très flatteur pour elle d'être séduite par quelqu'un qui a 15 ans de moins, qui est encore un bel homme, etc. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'il joue. Hein, il faut qu'il se rappelle que finalement, il a des atouts.
Est-ce qu'il peut s'entraîner, par exemple, tout seul chez lui déjà pour
l'inner game,
l'aborder.
Ouais, on va parler de quoi? On va parler de méthode couée? Non, peut-être pas, mais s'entraîner, je pense que ça va être avec elle. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de partir de suite dans une séduction agressive. Ça peut être dans leur rapport.
Plus sérieusement, Noah Rose, oui. Il nous dit bien, dès que je la crois, je deviens tout rouge. Alors, on ne va pas lui dire de mettre du fond de teint quand même.
Non.
Il faudrait qu'il bronze un peu plus avec le soleil qui est absent.
Ouais,
c'est difficile.
Voilà. Il va devenir encore plus rouge aussi. Voilà. Mais il devient tout rouge. C'est une question de timidité, mais je pense que c'est surtout quand
c'est
il dit ça.
C'est ce qu'il ressent, en fait.
C'est ce qu'il sent par rapport à elle. Donc, c'est pour ça que je lui dis que c'est plutôt un travail sur soi, c'est plutôt de se dire qu'il a peut-être l'avantage sur elle, l'avantage de la jeunesse, et c'est plus un atout qu'un défaut.
Mais moi,
et c'est comme ça qu'il faut qu'il voit.
Je conseillerais presque de faire cet aveu, justement de prendre ça, ce qu'il considère comme une faiblesse, comme un moyen de l'aborder. Et face à elle, il dit... Je perds tous mes moyens quand je suis face à vous, c'est curieux quand même, non?
Moi, ça c'est dangereux dans le sens où oui, moi j'aime bien cette approche-là, mais à partir du moment, c'est dangereux s'il a pas le langage corporel non verbal qui va avec, c'est-à-dire que en délivrant le message comme ça, si on le délivre avec une certaine confiance, ça peut très bien passer justement, et elle peut le mettre à l'aise là-dessus, et puis ils peuvent partir sur un nouveau rapport. Si par contre il le dit et qu'il le croit, et j'ai l'impression qu'il le croit ça,
c'est sûr même.
Ouais. Et s'il le croit trop, elle s'apercevra finalement qu'il est un petit peu, justement qu'il est un petit peu genou, elle dira mais moi j'ai quand même besoin d'un homme, j'ai 15 ans de plus, j'ai encore besoin d'un homme, et elle est séduite par des gens qui ont 45 ans, etc., et qui ont peut-être plus d'assurance, et il faut qu'ils gagnent en assurance de ce côté-là, en réfléchissant à ses atouts. Sa jeunesse est un atout et pas un défaut, et donc il faut qu'il pense comme ça. Il faut qu'il change un petit peu sa manière de penser. C'est plus un travail sur soi que quelque chose.
Donc, Alain, à 26 ans, vous êtes une bête de sexe. Vous avez
exactement,
un atout formidable. Vous allez être un amant exceptionnel.
Et c'est ce qu'il faut se dire avant de lui parler. Et c'est elle finalement qui a peut-être quelque chose à y gagner, et peut-être plus que lui.
Du plaisir.
Plaisir. Ouais.
Voilà. Merci en tout cas.
Merci,
Noah Rose.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. RMC. Lahaie, l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Et donc c'est Bruno Martin qui est avec nous, vous êtes psychosomaticien, on parle des pannes d'érection, vous êtes d'accord, hein, pour beaucoup de gens, une panne d'érection c'est souvent une panne de désir, alors qu'en fait il y a énormément de facteurs qui peuvent provoquer cette panne. Hein.
Voilà, moi je compare toujours ça, vous savez, à une voiture,
parce que
ça
sûre.
Parle. Mais oui, mais il faut faire en fonction de ce que les hommes aiment, et ils comprennent très vite dans ces conditions-là. La voiture, ça peut avoir des pannes mécaniques, alors le corps humain aussi peut avoir des pannes mécaniques, hein, cardiovasculaires, neuropathiques, etc. Bon, mais il y a beaucoup d'autres choses qui conditionnent la perte d'érection. Il y a effectivement le manque de désir, ça peut quand même arriver si vous
bien
voulez.
Bien sûr.
Et parce qu'il y a un faux désir chez les hommes. Quand je leur demande est-ce que vous avez du désir, ils me répondent tous oui. Et en fait, ils ont le désir d'avoir une érection et d'avoir un rapport sexuel réussi avec leur compagne. Alors que ce qu'il faut, c'est pas du désir, c'est de l'excitation sexuelle. Et ça, c'est pas du tout comme j'ai envie d'avoir une érection et de donner du plaisir à ma compagne. C'est-à-dire, je dois avoir des choses qui viennent me chatouiller à l'intérieur, à partir de ce que j'imagine, ce que je vois, ce que j'entends et ce que je sens. Donc il peut y avoir ce genre de panne, on a envie de faire l'amour pour faire plaisir, mais on n'a plus envie de se remplir de carburant soi-même. Alors, ça, c'est déjà une première chose. Il peut y avoir des pannes, et c'est très souvent associé d'anxiété anticipant l'échec, qui mettent le frein à main et qui compriment les corps caverneux.
C'est justement ce que semble dire Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Bruno.
Bonjour.
Et puis, bonjour Brigitte. Oui, je suis complètement de l'avis de Bruno, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de timide. J'ai souvent un problème dû au stress.
Mmh. Qui justement, donc, a une influence sur votre érection.
Bah, c'est-à-dire que ça me bloque complètement, et alors que je peux avoir une folle envie de ma partenaire, eh bien, ce stress fait que tout s'arrête, et puis c'est assez frustrant parce que, premièrement, évidemment, pour nous, ça se voit tout de suite, et puis après, on se pose la question, mais comment je vais faire pour réussir à avoir une érection, tout ça. Alors, je vous avais appelé notamment il y a quelques mois pour ce sujet, et vous m'aviez bien aidé, et si vous voulez, maintenant, j'essaye d'avancer un peu, et j'essaye de trouver des remèdes en vivant l'instant présent. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit Bruno, c'est que on se fixe dans notre tête, l'envie de désir, mais on n'arrive pas à l'avoir réellement. Alors que si on se met c'est pas imagé, mais on contacte avec la personne et qu'on essaye de ressentir ce qu'elle essaye de nous faire passer, et nous aussi, à partir de ce moment-là, on ne pense plus à son problème, vu qu'on pense juste à donner du plaisir à sa partenaire, et là c'est magique, et ça arrive souvent, ça revient, et là tout va bien. Et puis et un autre conseil que vous m'aviez donné et que je mets à profit, et c'est vraiment très efficace, c'est que il y a tellement de moyens de faire plaisir à une femme que la pénétration en est une chose, mais on en est quand même très très loin. Je vois maintenant, j'ai développé énormément de choses au niveau des prémices, des cunis, la possibilité de faire fontaine. Enfin, j'ai essayé d'ouvrir mon panel de choses pour faire plaisir, et j'avoue maintenant que ça va beaucoup mieux, quoi.
Mais je crois qu'on fait pas assez confiance à son corps. On part tout de suite dans la réflexion, dans la pensée. Au fond, le corps, il a une intelligence. Et si on fait confiance à son corps en tant qu'homme, il y a aucune raison que l'érection ne revienne pas à partir du moment où il y a en effet de l'excitation. Hein.
On doit rester sur un cerveau très primaire. Hein, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens et ce que j'imagine, et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il me faut une érection pour faire l'amour. Moi, je leur dis aux patients, non, il vous faut pas une érection. Il vous faut une excitation sexuelle, égoïstement centrée sur vous dans un premier temps, et suffisamment de temps, suffisamment détendu, pour avoir une érection qui, accessoirement, vous servira pour avoir une pénétration. Mais il ne vous faut pas une érection.
Non,
ça, c'est une grande nuance.
C'est-à-dire qu'encore une fois, on oublie que le rapport sexuel, c'est quelque chose qui se fait à deux. Donc si on est bien avec une partenaire qui nous plaît, a priori, l'érection va venir. Se dire « je veux une érection », bon, ça voudrait dire qu'on peut aller avec n'importe quel partenaire, quelque part. Vous n'êtes pas des surhommes.
Non,
désolé.
Mais encore, il faut savoir se servir de notre propre fonctionnement, et parfois on se prend les pieds dans le tapis.
Bon, ben Philippe, donc ça progresse bien, c'est formidable.
Oui, c'est parfait, ça va de mieux en mieux. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand ça peut arriver, en vie de couple, ce qu'il faut, c'est complètement dédramatiser, quoi. C'est-à-dire que, on le fait pas sous cette forme ce soir, et on le fera demain, et puis il y a vraiment aucun souci, parce que je pense que le rapport d'un couple, c'est au jour le jour, c'est tous les jours, de l'attention on en donne tous les jours, du plaisir on peut en apporter tous les jours, et puis arrêter de se dire, il faut absolument que ça soit ce soir, parce que là c'est exactement ce qui va aller à l'envers, quoi.
Bon, formidable, vous avez mis la performance à la poubelle, et puis vous apprenez tout doucement à... Et vous verrez, parce que plus on fait des progrès, plus on fait des progrès. C'est vraiment le cercle vertueux.
Absolument, comme l'inverse est vrai.
C'est sûr. Mais aussi.
Apprendre à se nourrir d'excitation sexuelle, soi-même. Avant de vouloir donner, il faut déjà faire le plein.
Merci Philippe.
J'ai des bonjours devant moi. Je vous remercie en tout cas.
Merci Philippe. Benoît, vous avez un souci, vous, quand il s'agit de poser le préservatif?
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Bruno.
Bonjour.
Effectivement, on fait des préliminaires classiques, on va dire, avec mon épouse, Cunnilingus, on joue avec des sextoys, etc. Et j'ai une bonne érection à ce moment-là. Je peux pénétrer mon épouse avant de mettre un préservatif. Donc on va aller dans ce sens-là pendant un certain temps. Et puis après, à un moment donné, il faut que je mette un préservatif. Et à ce moment-là, il y a tout qui marche plus, ça déborde et ça et puis le rapport s'arrête quoi.
Mais là, il y a un réflexe pavlovien en quelque sorte, hein, parce que encore une fois, répétons-le, le mettre un préservatif, a priori, il n'y a pas de raison que l'érection tombe. En revanche, il y a toutes les raisons parce que sur le plan psychologique, c'est d'abord c'est pas drôle, ensuite c'est mettre quelque part un bout de latex entre les corps, et puis ensuite il suffit qu'une fois ou deux ça ait posé un problème pour que après ce soit systématique. Donc c'est pour ça que je parle de réflexe pavlovien.
Bah oui. C'est un pur conditionnement. C'est un conditionnement, mais si vous voulez, vous vous coupez un instant de votre carburant excitatoire et puis vous mettez le frein de l'anxiété de ce que décrivait Brigitte. Mais moi j'ai souvent un conseil, hein, c'est vraiment de découper le petit sachet de préservatif pour que le préservatif soit juste à poser au dernier moment. C'est-à-dire que bon là en un dixième de seconde ou en une demi-seconde, vous avez posé le préservatif, vous n'avez pas le temps de perdre votre érection. Hein.
En fait, je mets le préservatif et je suis en érection, je pénètre mon épouse, je suis en érection, mais après, je ne sens plus rien. Je sens rien. Donc,
vous sentez moins. On ne peut pas dire que vous ne sentez plus rien.
Je sens moins.
Je pense que c'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça que je parlais du paramètre psychologique. C'est vrai que c'est votre épouse, c'est la femme que vous aimez, et tout d'un coup, vous êtes obligé de mettre une sorte d'armure entre elle et vous. Donc c'est vrai que ça peut être un paramètre tout à fait désexcitant.
Donc comment remédier à ça?
Et vous n'avez pas d'autres moyens de contraception? Parce que finalement...
Ça fait 20 ans qu'on est pas mariés, mais qu'on est ensemble. Mm-hmm. Donc on a eu deux enfants et on n'en veut pas d'autres.
Bien sûr, oui.
Et donc elle a arrêté la pilule. Parce que je trouve pas ça très simple pour le corps humain, elle non plus. Et ça lui apporte beaucoup de contraintes. Donc elle a arrêté et du coup on a décidé de revenir au préservatif.
Bien sûr, mais essayez peut-être le stériler, me paraîtrait...
Ça on a essayé, mais moi je touche et donc c'est très désagréable.
D'accord, oui. Donc vous êtes visiblement d'une sensibilité extrême et c'est quelque chose qui est très fort chez vous, hein, visiblement. Le stérilet, vous le sentez, le préservatif, ça vous... Parce que si vous n'avez pas l'érection qui tombe au moment où vous le mettez, mais au moment où vous êtes en train de faire l'amour à votre femme, on voit bien que là, c'est vraiment tout ce que ça représente. Alors peut-être qu'inconsciemment, vous désirez encore faire des enfants à votre femme, donc il faudrait peut-être travailler là-dessus.
Et quel âge elle a, votre épouse?
37 ans.
Oui. Bon, parce qu'il y a aussi des spermicides, il y a des petites, il y a des capsules, enfin, il y a pas mal d'autres possibilités au niveau de la contraception, hein, qui vous permettraient de continuer à avoir des pénétrations directes.
Oui, alors, il y a la discussion hier soir a tourné autour de des solutions plutôt du côté masculin. Je suis pas très motivé, mais voilà, et ça, je sais pas du tout ce qui existe dans la matière.
À part le préservatif, il n'existe pas grand-chose. Il y a la vasectomie, mais là, on est quand même dans un traitement assez définitif, donc c'est pas forcément une très bonne idée. Et surtout qu'en plus, quand on entend votre témoignage, on peut craindre aussi que la vasectomie, elle vous pose des petits soucis, parce que ça sera une infertilité définitive. Donc moi, je pense pas que ce soit une bonne idée en ce qui vous concerne, encore une fois.
Non,
parce
moi,
que...
je pense pas que ce soit une bonne idée.
Non, je pense pas. Non, je crois pas. Je crois pas.
Il faut creuser les contraceptions féminines. Hein.
Oui, je crois qu'il faudrait, parce que franchement, aujourd'hui, on a quand même une vraie panoplie en ce qui concerne la contraception féminine. Essayez de voir comment vous pouvez arriver à trouver quelque chose qui lui, il y a l'implant, il y a pourquoi la pilule n'allait pas. Faut peut-être essayer de comprendre pourquoi ça n'allait pas avec la pilule. Et à ce moment-là, ça vous permet de vous orienter vers une bonne contraception qui conviendrait.
Voilà. Et il y a aussi des préservatifs de différentes épaisseurs. Il y a des ultra fins. Hein, il faut chercher la marque et l'épaisseur qui vous convient le mieux, parce que là aussi, vous n'avez peut-être pas fait le tour de tout l'assortiment.
Non, mais ça, c'était effectivement une discussion d'hier soir aussi, donc je me suis précipité à la pharmacie aujourd'hui pour acheter différents types de préservatifs.
Voilà.
Qu'on va essayer.
Bon, en tout cas, vous cernez assez bien votre souci. Il faut pas que ça devienne ensuite un sujet encore plus délicat, parce que votre érection est de plus en plus délicate, quoi. C'est là où il faut toujours faire attention à ça.
D'accord. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas.
Mais je vous en prie, Benoît, et ben bonne recherche alors.
Merci. Au revoir.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Et nous allons du côté d'RMC.fr, Christophe Forêt, avec Lionel qui nous envoie ce mail, qui a 24 ans. Hein. Je suis très très amoureux d'une femme qui a 32 ans et qui a deux enfants. On sait qu'on se connaît depuis 3 mois, c'est un amour extraordinaire. Mais je suis très inquiet à l'idée de rencontrer ces enfants qui sont encore en bas âge. Et je ne me vois pas vraiment me retrouver dans une situation de couple avec deux enfants. Comment puis-je lui expliquer que je ne suis pas pressée parce qu'elle veut me présenter ses enfants et je ne sais pas comment lui expliquer que je ne suis pas du tout prêt.
Voilà, notre ami pointe la grande erreur et le grand piège de la famille recomposée, vouloir trop rapidement faire intervenir les enfants sur un couple qui est juste en train de se construire.
Et lui, il veut pas. Hein.
Mais oui, il veut pas. Oui, non, mais c'est ça le message qu'il doit faire passer à cette personne-là. C'est
il faut qu'il ose dire
clairement, je veux construire une relation solide, profonde avec toi. Et c'est seulement dans un deuxième temps, une fois qu'on pourra présenter un front uni et que je me sentirai sécurité dans notre couple, que je pourrais rencontrer tes enfants. Mais vraiment, la plupart des... beaucoup de couples qui se plantent dans une famille recomposée, c'est de présenter trop, de mélanger trop rapidement les deux alors même que le couple est trop, trop jeune.
Mais j'ai remarqué que c'est souvent les femmes qui veulent absolument présenter leurs enfants très vite, alors que les hommes sont beaucoup plus raisonnables par rapport à ça.
C'est un manque de sagesse. Parce
de maturité.
C'est vouloir peut-être trop rapidement ramener auprès des enfants, un substitut parental, un substitut paternel pour les rassurer. Mais au bout du compte, ça crée des conditions de fragilité parce que le couple a besoin de se construire avant de présenter les enfants. C'est une règle, mais si on l'enfreint, on se prend le mur.
Donc Lionel doit être ferme et lui dire tout simplement pour l'instant, il ne se sent pas prêt de rencontrer les enfants.
La priorité, une famille recomposée, ça existe d'abord parce qu'il y a un couple. S'il n'y a pas de couple, ça ne marche pas. Donc autant consolider fortement ce couple.
RMC, La Haye, l'amour et vous. RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Revenons sur le cas d'Alexandra. Vous comprendrez que les relations à distance ne sont pas toujours faciles à gérer. Michel Oudoul, notre spécialiste du shiatsu, était avec moi ce jour-là.
Oui, bonjour Brigitte. Donc moi, je vais être rapide. En fait, j'ai une relation à distance depuis 3 ans avec quelqu'un. On vit chacun chez soi, c'est d'un commun accord. Ça nous allait très bien comme ça. Sauf que depuis à peu près 1 mois et demi, lorsqu'il vient chez moi, il refuse de faire l'amour, alors qu'avant, c'était 4-5 fois dans le week-end. C'était quelqu'un qui était très attiré par ça. On passait même 2 heures à faire l'amour à chaque fois. Et donc, les excuses, c'est soit je suis fatiguée, soit il fait exprès de rester devant la télé jusqu'à 1h du matin. Donc, comme ça lui évite de monter, se coucher en même temps que moi. Je lui ai posé la question et il m'a dit, de toute façon, je suis pas dedans et j'ai pas la tête à ça. Voilà, donc je sais que depuis quelque temps, il a pas mal de soucis au travail, financier. Donc, est-ce que ça peut jouer sur la libido d'un homme? Parce que moi, je pensais que la libido d'un homme ne pouvait pas être atteinte par des problèmes autres.
Bah non, ils n'ont pas d'émotions, les hommes, c'est bien connu. Donc, ils sont linéaires, Alexandra. Non, mais bien sûr que tout événement extérieur peut jouer sur la libido d'un homme ou d'une femme, d'ailleurs. Hein. Alors, c'est toujours pareil, Alexandra. Ce qu'il faudra arriver à savoir, c'est si l'évitement que vous subissez est dû à son état d'humeur, et à ce moment-là, il faut être compréhensive et patiente, ou si c'est le symptôme symptômes de quelque chose qui ne va plus bien dans votre relation. Moi, je peux pas vous répondre comme ça de but en blanc, mais voyez, il est clair qu'il vous évite. Donc, il faut comprendre si c'est vous qui l'évite, ou si c'est tout simplement l'autre qui l'évite parce qu'il ne va pas bien.
Oui, c'est ça que j'arrive pas à savoir.
Nos émotions, elles se traduisent par peut-être un peu le langage, mais elles se traduisent par beaucoup d'autres choses. Et donc là, on va essayer de comprendre si cet homme, il est capable d'avoir encore des moments d'intimité avec vous, c'est-à-dire est-ce qu'il accepte la tendresse, est-ce qu'il accepte que éventuellement vous ayez un moment d'intimité, ou est-ce que même ça, c'est pas possible pour lui?
Non, il accepte, parce que c'est vrai qu'il continue à me prendre la main, d'accord, il est câlin quand je vais le chercher.
Donc,
et quand je le force, il fait quand même l'amour, mais on sent qu'il y a beaucoup moins d'envie qu'auparavant.
Donc tout ça laisse plutôt à penser que c'est lui qui a visiblement une mauvaise passe en ce moment et qui fait que donc il est moins sexuel. Maintenant, il faut peut-être aussi essayer de l'aider à remonter la pente. Il faut peut-être d'abord qu'il puisse exprimer plus clairement justement sa tristesse, hein, puisqu'on va, là on va parler de tristesse plutôt. En l'exprimant mieux, il va pouvoir plus facilement justement l'évacuer. Et puis ensuite, la joie va pouvoir revenir, et donc la sexualité.
J'essaie de le faire parler, mais vous connaissez les hommes, ils sont très fermés.
Oui, mais on n'est pas obligé forcément de s'exprimer par la parole. Je crois que ce qu'il faut surtout pas, c'est essayer de le forcer à avoir des relations sexuelles. Pour l'instant, c'est compliqué pour lui. Ouais. Bon, il faut accepter aussi cet état. On n'est pas toujours dans notre meilleure forme.
Donc... Oui, mais je l'ai accepté. Hein. Je ne lui fais aucun reproche. J'essaye justement discrètement de mettre une petite nuisette qu'il aime bien, de se mettre un peu de sous-vêtements pour justement.
Non, mais ça c'est pas bon, Alexandra, parce que c'est pareil, c'est comme lui demander de faire l'amour. Voyez, si vous mettez une nuisette très sexy, vous êtes en train de lui dire j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de t'exciter. Non, je crois que pour l'instant, il faudrait plutôt profiter de cette phase qui est peut-être pas très agréable pour vous, parce que ça toujours pareil, ça vous met en doute également, mais profitez de cette phase pour vous rapprocher sur un plan plus profond et voir comment vous pouvez trouver ensemble autre chose qui va vous permettre aussi de vous sentir unis. Peut-être que vous pouvez en profiter pour aller vous promener dans la nature, pour essayer de vous imprégner de quelque chose qui vous réunit et qui n'est pas uniquement la sexualité. Vous voyez, peut-être que cet homme, pour l'instant, il a besoin un peu de se poser, de faire le point, de redonner un peu plus de sens à sa vie, qu'est-ce qui au fond est important pour lui aujourd'hui, et comme ça vous allez trouver une véritable relation où il se sentira, si vous voulez, accueilli dans sa totalité, même si aujourd'hui sexuellement il n'est pas l'homme que vous attendez. Et puis si ça dure vraiment, moi je crois qu'encore une fois, il faut pas hésiter à ce moment-là à envisager peut-être une thérapie ou quelque chose, parce que on peut être déprimé, triste pendant quelque temps. Si ça dure, à ce moment-là, on peut craindre une dépression, et là, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment en main. Merci Alexandra en tout cas.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaye.
Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous avez 32 ans, vous êtes marié donc, hein?
Oui.
Et votre épouse, il y a quelques temps, donc c'était l'année dernière, décide d'aller vivre avec son amant.
C'est ça. Enfin, vivre avec son amant. Pas vraiment, mais enfin oui, de vivre son aventure avec son amant après la découverte.
D'accord. Et là, à cette époque-là, vous acceptez, vous dites, bon, écoute, après tout, vivre ce que tu as à vivre. Non.
Pas du tout. Non, c'est très très difficile à vivre. C'est très compliqué à accepter, je l'accepte pas du tout pendant un ou deux mois, je lui tourne autour, quoi. Vraiment, je fais tout pour la récupérer. Alors, toutes les erreurs qu'il faut pas faire, hein, ça passe de la tentative au poème, aux cadeaux, aux attentions, à toutes ces choses-là. Et puis, je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps, plus ça va, plus je l'étouffe et je la fais fuir. Puis je la sentais pas sûre d'elle, c'est aussi peut-être ça qui m'a poussé à faire tout ça. Et puis petit à petit j'ai laissé tomber, et au mois d'octobre il se trouve que son amant l'a trompé et l'a quitté.
D'accord.
Donc elle est revenue vers moi. J'ai essayé de passer toutes ces mauvaises étapes qu'on avait passées ensemble, et puis d'essayer de reconstruire ensemble, ce qui était très compliqué, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Et puis petit à petit, en tout cas moi de mon côté, ça a commencé à fonctionner. On était même prêt à reprendre un appartement ensemble. J'ai eu des sensations, en tout cas m'a montré beaucoup de choses, qu'elle était, qu'elle retrouvait certains sentiments. On a fait beaucoup de week-ends, beaucoup de sorties, et puis il se trouve que la semaine dernière, il est revenu vers elle et elle est retournée avec lui.
Ce qui est ennuyeux dans ce que vous racontez, Thomas, c'est qu'au fond, elle est revenue vers vous parce qu'il la quitte.
Oui.
Il veut la reprendre, elle revient. Donc l'affection qu'elle a pour lui, ou en tout cas le sentiment amoureux, il est fort. Et je crois que c'est ça qu'il faut quand même que vous réalisiez, ce qui est pas forcément la preuve que ça qu'elle va rester avec lui. Mais vous n'avez pas beaucoup de capacité à décider de
Non, là je me rends bien compte qu'il n'y a rien à faire et que effectivement hein, de toute façon elle me l'avait dit hein, quand elle est revenue qu'elle était folle amoureuse de lui, enfin qu'elle était tombée folle amoureuse de lui. Et puis après il y a eu quand même une certaine j'ai l'impression d'avoir subi une certaine manipulation de sa part, dans le sens où elle voulait pas rester seule, qu'elle attendait qu'une chose, c'était qu'il revienne, et ça a été dur à vivre, et c'est encore dur à vivre aujourd'hui, parce que je vous dis, il y a eu moi plusieurs fois, j'ai fait cette remarque justement sur les raisons de son retour, en lui disant que c'était pas forcément de bonnes raisons, que c'était plutôt à elle de le quitter si elle voulait revenir, et pas le contraire. Et elle me disait toujours que qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait jamais oublié, qu'elle pensait tout le temps à moi, plein de choses qui rassurent en fait, et puis qu'elle pouvait pas vivre sa vie sans moi, que depuis qu'on était plus tous les deux, elle ne se reconnaissait plus, elle était plus elle-même. Donc moi, ça m'a refait prendre confiance en fait en tout ça, tout en gardant à l'esprit qu'elle était tombée follement amoureuse d'un autre homme. Donc c'est vrai que c'était délicat à gérer. Et là, la surprise, c'est que je les ai encore resurpris tous les deux aller boire un verre. Et puis, du fait que je l'ai surprise, elle a préféré encore prendre la fuite.
Oui, c'est-à-dire qu'elle aurait préféré rester avec vous et vivre en cachette sa relation amoureuse ?
Je sais pas, je ne pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'elle attendait vraiment que...
Oui, parce que les femmes sont souvent assez entières, et surtout quand elles sont, comme la vôtre, très dominées par leurs émotions. La femme, elle est beaucoup plus réactive à ses émotions, et donc à ses sentiments, et donc au désir, et donc à l'amour. Et ce qui est ennuyeux dans votre cas, Thomas, c'est que vous semblez quand même assez réaliste, hein, même si vous souffrez. Je pense que votre souffrance, elle est certainement très présente en ce moment.
Ouais,
mais malgré tout, vous avez de la lucidité, on va dire. Tandis qu'elle, dans ce que vous me racontez depuis l'année dernière, elle a réagi uniquement au gré de ses sentiments, de ses émotions,
et ça
elle
a été
pas.
Dans la réaction.
Bah oui, et donc c'est là où ça devient compliqué pour vous de pouvoir parler ensemble, parce que elle est sur un mode de l'émotion, vous êtes sur un mode de lucidité, d'engagement, vous êtes capable de la reprendre malgré tout. Mais là maintenant, comment vous pouvez continuer à avoir envie de vous engager et à faire confiance à quelqu'un qui, bien sûr, c'est compliqué.
C'est ce qui fait le plus mal en fait par rapport à la lucidité dont vous parlez, c'est que justement je me rends compte que malgré tous les sentiments et tout l'amour que je peux avoir encore pour elle, que ça va bien être difficile maintenant de pouvoir faire confiance à une personne qui prend des décisions sous le coup de l'émotion et qui réfléchit pas vraiment aux conséquences que ça peut avoir. Parce que moi quand je l'ai ramassée, elle était en miettes, quoi. Il l'avait complètement mis en miettes, il lui a détruit sa vie, et elle était au bord du suicide, et j'étais fier de pouvoir aussi remplir mon rôle de mari et la relever, et surtout lui apporter ce que moi j'ai pas pu avoir quand elle m'a quitté. C'est-à-dire beaucoup de réconfort et puis
lui
redonner confiance en elle, quoi.
Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a de fortes chances que cette relation qu'elle est en train de vivre n'aboutisse pas sur grand-chose et que ce soit à nouveau une rupture. Mais
j'en ai bien peur, oui.
Mais vous, est-ce que vous serez prêt à ce moment-là à reprendre voilà, c'est. Mais je pense, Thomas, que ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est si jamais vous décidez de revivre avec elle parce qu'elle revient, je crois qu'il faudra à ce moment-là un petit peu la canaliser. Je crois que encore une fois, c'est peut-être une des erreurs qu'on fait beaucoup dans le couple, c'est de croire que l'autre a suffisamment on va le dire le mot, hein, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, a suffisamment d'intelligence émotionnelle et qu'on peut communiquer d'égal à égal. Non, malheureusement, parfois, on a affaire à quelqu'un qui est resté un grand enfant, et à ce moment-là, il faut être un peu plus ferme. Je pense que quand elle est revenue vers vous, vous auriez peut-être dû être plus ferme. C'était, bon, c'est toujours facile après coup de dire les choses. En tout cas, Thomas, pour l'instant, faites le bilan et je pense que vous n'êtes pas en train de vous bercer d'illusions. Et puis voyez si vraiment vous avez encore l'impression que votre couple pourrait rebondir ou pas. Et c'est vous qui déciderez à ce moment-là de faire le deuil de la relation ou éventuellement de rester en attente. Parce qu'il y a de fortes chances, en effet, que ça ne dure pas, cette relation, puisque c'est une relation qui semble assez toxique. Bon courage, Thomas.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.